Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqarah. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce mardi 12 septembre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La présence de terroristes au Kurdistan irakien porte atteinte au lien Téhéran-Bagdad, souligne le ministre iranien des Affaires étrangères. Inondation en Libye, plus de 2000 morts. L'Iran présente ses condoléances et le bilan des victimes du séisme au Maroc dépasse les 2800. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la présence de terroristes dans la région du Kurdistan irakien viole la constitution du pays arabe et n'était pas en harmonie avec les relations cordiales entre Téhéran et Bagdad. Amir Abdollahian a fait cette déclaration lors d'une réunion avec Wafel Talabani, chef de l'Union patriotique du Kurdistan irakien, UPK, lundi 11 septembre à Téhéran. Cette rencontre a eu lieu avant la date limite fixée par l'Iran et l'Irak pour désarmer et déplacer les groupes terroristes basés dans la région semi-autonome du Kurdistan. La présence de terroristes dans la région du Kurdistan et leurs actions contre la sécurité de l'Iran sont incompatibles avec la constitution irakienne et les relations bilatérales amicales, car aucune partie ne devrait être autorisée à porter atteinte à la sécurité des voisins de l'Irak, a déclaré le plus haut diplomate iranien. Il a ajouté que l'Iran était favorable à un Irak indépendant, prospère et développé, soulignant que Téhéran et Bagdad entretenaient des liens étroits. Pour sa part, Talabani a salué le soutien continu de l'Iran au gouvernement et à la nation irakienne. Nous sommes fiers de nos relations et de notre amitié avec la République islamique d'Iran. Il a mentionné les mesures prises par son parti pour renforcer la sécurité le long des frontières de la région du Kurdistan, soulignant que l'Irak ne permettra pas que des dommages soient causés depuis son territoire aux pays de la région, en particulier l'Iran. Téhéran condamne l'attaque contre son ambassade à Paris. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a commenté lundi 11 septembre la récente attaque contre l'ambassade d'Iran en France, qu'il a fermement condamnée. Nasser Kanani a noté que la République islamique d'Iran avait envoyé une notification formelle de protestation à l'ambassade de France à Téhéran et au ministère français des Affaires étrangères à Paris. Samedi, des membres de groupes contre-révolutionnaires anti-iraniens ont attaqué la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Paris. Les assaillants ont brûlé des pneus devant l'entrée du consulat, causant quelques dégâts mineurs. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que la France était responsable d'assurer la sécurité de l'ambassade et des installations diplomatiques iraniennes en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Il a ajouté que l'ambassadeur de France à Téhéran avait fermement condamné cet acte lors d'une réunion avec le chef du département Europe occidentale du ministère des Affaires étrangères et avait souligné que les autorités françaises poursuivaient l'affaire pour identifier les assaillants et leur demander des comptes. Un convoi appartenant à la coalition dirigée par les États-Unis aurait transféré du matériel militaire, des munitions et du carburant depuis des bases américaines en Irak vers la Syrie voisine. Citant des sources anonymes, la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin a rapporté que le convoi était entré lundi soir dans l'est de la Syrie par le poste frontière de Faish-Khabour dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien. L'armée américaine a renforcé ces derniers mois sa présence militaire en Syrie, un pays aux prises avec des terroristes soutenus par l'étranger depuis 2011. L'Irak a dénoncé à plusieurs reprises le déploiement comme étant illégal. Le mois dernier, le Pentagone a envoyé un convoi vers la base de la province de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie via le poste frontière d'Al-Walid entre l'Irak et la Syrie. Composé d'une cinquantaine de véhicules, le convoi a atteint le 14 août les bases américaines du champ de gaz naturel de Conico et du champ pétrolier d'Al-Omar. Le Pentagone affirme que le déploiement de ses forces et équipements en Syrie vise à empêcher que les champs pétroliers ne tombent entre les mains des terroristes Daesh. Damas, de son côté, maintient que ce déploiement vise à piller les ressources naturelles du pays arabe. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances au peuple et au gouvernement libyen suite à la tempête et aux inondations dans certaines villes libyennes et aux pertes de vies humaines et à la disparition d'un grand nombre de citoyens de ce pays. Des régions de l'Est libyen font face depuis dimanche au cyclone Daniel qui a provoqué des inondations qui ont fait plus de 2000 morts, selon un bilan provisoire des autorités libyennes. Ce cyclone a balayé les villes de Benghazi, Al-Baïda, Al-Marj, Sousse et Derna, faisant plus de 2000 morts et 1270 blessés, selon un bilan officiel provisoire. Un précédent bilan faisait état de 150 morts. Des images tournées par des habitants et diffusées sur les réseaux sociaux montrent la violence du cyclone Daniel, les pluies torrentielles qui s'abattent sur l'Est libyen et des quartiers entiers inondés. Le bilan des victimes du tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis plus de 6 décennies s'élève à plus de 2800, alors que les sauveteurs courent contre la montre pour retrouver des survivants. Des équipes de recherche d'Espagne, de Grande-Bretagne et du Qatar se sont jointes lundi 11 septembre aux efforts de secours marocains après qu'un séisme de magnitude 6,8 a frappé vendredi soir dans les montagnes du Haut Atlas, dont l'épicentre se trouve à 72 km au sud-est de Marrakech. La télévision d'État a rapporté que le bilan s'élevait à 2862 morts et 2562 blessés. Les sauveteurs ont déclaré que les maisons traditionnelles en briques crues, omniprésentes dans la région, réduisaient les chances de retrouver des survivants, car elles s'étaient effondrées. Après une première réponse qualifiée de trop lente par certains survivants, les efforts de recherche et de sauvetage ont semblé s'accélérer lundi, avec l'apparition de camps de tentes dans certains endroits où les gens se préparaient pour une quatrième nuit en plein air. Washington s'apprête à approuver la fourniture à l'Ukraine de missiles à plus longue portée remplis de bombes à fragmentation. Selon un rapport publié lundi 11 septembre, l'administration Biden pourrait finalement livrer à Kiev des missiles ATACMS ou GMLRS. Les États-Unis seraient sur le point d'approuver l'armement de l'Ukraine avec des missiles à plus longue portée équipés de bombes à fragmentation, malgré les craintes généralisées que ces missiles ne fassent des victimes civiles sans discernement. Selon trois responsables américains anonymes, Washington envisage d'expédier les deux systèmes de missiles tactiques de l'armée ATACMS capables de voler jusqu'à 306 km ou des missiles guidés à lancement multiple GMLRS d'une portée de 72 km remplis de bombes à fragmentation. L'Ukraine est actuellement équipée d'une artillerie de 155 mm d'une portée maximale de 30 km et pouvant transporter jusqu'à 40 vies bombes. L'ATACMS peut tirer environ 300 bombes ou plus, tandis que le système de fusée GMLRS est capable de disperser jusqu'à 404 bombes à sous-munitions. Si les deux systèmes sont approuvés, l'une ou l'autre option serait disponible pour une expédition rapide à Kiev, indique le rapport. Ces munitions seraient utilisées contre les forces russes déployées dans les territoires ukrainiens, dont la population a voté en faveur du rattachement à la Russie depuis le début de la guerre. Washington a alloué plus de 40 milliards de dollars d'aide militaire à Kiev depuis le début de la guerre en février dernier. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le projet de réforme judiciaire de Netanyahou a causé de lourds dégâts à l'armée israélienne. Le ministre de la guerre du régime sioniste a admis que le projet de réforme judiciaire de Benjamin Netanyahou avait imposé un coût élevé à l'armée et aux institutions de sécurité de ce régime. Le ministre de la guerre du régime sioniste, Yoav Gallant, a reconnu lundi que le projet controversé de réforme judiciaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou avait causé des pertes insupportables à l'armée et aux institutions sécuritaires israéliennes. Le ministre de la guerre de l'entité israélienne a déclaré avoir demandé en mars 2023 à Netanyahou d'arrêter la mise en œuvre de ce plan en raison de ses dommages à la sécurité intérieure du régime sioniste, ce qui avait conduit à un désaccord entre lui et Netanyahou. L'approfondissement des divisions pénètre les institutions militaires et sécuritaires. Il s'agit d'un danger clair, immédiat et réel pour la sécurité d'Israël, avait-il alors mis en garde. Un journal israélien a toutefois reconnu le mois dernier dans un rapport que l'armée d'occupation dissimulait strictement l'ampleur de la désobéissance militaire suite à la crise interne de ce régime. L'armée ne révèle pas l'ampleur de la protestation des militaires réservistes contre le projet d'affaiblissement du système judiciaire, prétextant que les ennemis d'Israël en seraient informés et craignant de nouvelles atteintes au moral des troupes. Elle voulait également empêcher l'élargissement du fossé au sein de l'armée, précisait le rapport. Dans un article publié le mois dernier, le journal de gauche Haaretz a écrit que les responsables de l'armée israélienne déclarent qu'ils ne divulgueraient jamais les détails et le nombre de forces ayant refusé de servir, sous prétexte qu'ils ne veulent pas que les ennemis d'Israël profitent de ces informations.
Bonjour à tous, bienvenue ici sur les plateaux de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Le nouveau numéro du débat que je vous propose aujourd'hui étant sur donc le sommet G20 avec notamment comme invité très spécial l'Union africaine, c'est le sujet du débat d'aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord, comme le veut notre format, un reportage qui résumera un peu la situation de ce sommet pour par la suite en débattre avec nos deux invités que nous avons choisis pour vous aujourd'hui. Tout de suite, je vous propose notre reportage.
Le ministre Sergueï Lavrov a répondu à la presse à l'issue du sommet du G20, livrant ses impressions sur une déclaration plus équilibrée et sur la volonté des pays du Sud à ne pas se laisser dicter leur conduite par l'Occident. La présidence indienne du G20 a consolidé les relations avec les pays du Sud, a salué Sergueï Lavrov le 10 septembre lors d'une conférence de presse, soulignant que nos amis indiens avaient travaillé avec honneur. Le diplomate russe a fait valoir que plusieurs pays membres œuvraient à la défense de leurs intérêts, permettant ainsi d'éviter que les pays occidentaux ukrainisent tout le débat aux dépens des pays émergents. Le ministre russe des Affaires étrangères a ensuite estimé qu'un mouvement de l'avant pouvait être observé au G20, remettant en cause l'hégémonie occidentale. La teneur de cette année était la consolidation des pays du Sud, a-t-il estimé, ajoutant que ces derniers avaient une bonne compréhension de ce qui se passe en Ukraine. Lavrov a déclaré que les pays du Sud avaient une bonne compréhension de ce qui se passe en Ukraine. Aussi a-t-il rapporté que le document, fruit d'un compromis, avait été rédigé après 200 heures de négociations. 90% a été validé avant le sommet, a-t-il ajouté. Les Sherpas ont été enfermés dans une pièce comme pour l'élection du pape. A-t-il de surcroît plaisanté, Kiev a fait part le 9 septembre de sa déception face au texte. L'Ukraine est reconnaissante envers les partenaires qui ont essayé d'inclure une formulation forte dans le texte. En même temps, en ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G20 n'a pas de quoi être fié, a déclaré un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Alors tout de suite, d'abord, la venue de notre premier invité, M. Bernard Cornu, analyste politique, également auteur de plusieurs articles. Bonjour M. Cornu, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous.
Alors, Monsieur Cornu, commençons donc tout de suite donc concernant ce sommet du G20. Ça s'est conclu, donc c'est la fin du G20 et finalement cette volonté, comme dit leur propagande, d'avoir un monde uni, d'avoir un monde frère, ça fait comme à demi-teinte parce que finalement, même s'il y a eu cette réunion et qu'il n'y a pas eu officiellement de désaccord, il y a beaucoup de dossiers encore qui non résolus au niveau des pays internationaux ne sont pas forcément d'accord entre eux, des conclusions sur certains dossiers, M. Cornu.
Oui, tout à fait. Les grands problèmes graves de l'humanité, les problèmes entre les nations, les problèmes vis-à-vis des peuples sans État, ils ont été mis sous le tapis, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été abordés, au moins en tout cas, pendant la déclaration finale, qui est très longue et qui a cherché à être consensuelle, à être adoptée par tout le monde. Comme d'ailleurs dans les rapports finaux de synthèse du GIEC, tous les vrais problèmes qui sont parfois connus des spécialistes ne sont pas vraiment abordés. On n'a pas le problème de l'occupation de la Palestine, on n'a pas abordé le problème de la suprématie du dollar et de l'abus du droit du dollar, enfin des États-Unis, dès qu'on utilise le dollar. Et je constate d'ailleurs que le dollar est la seule monnaie qui est évoquée dans tous les 30 ou pages ou les 83 paragraphes de la déclaration. Donc tant que ceci n'est pas remis en cause, cette domination du dollar, cet abus de pouvoir du dollar, les choses ne vont pas changer, les injustices. D'ailleurs, le mot justice internationale n'est pas du tout évoqué. On évoque parfois le droit international, mais on n'évoque pas les modalités d'application du droit international. Et aussi, on n'a pas défini le terrorisme, et il est évoqué, les moyens de lutte contre le financement occulte du terrorisme sont évoqués, mais comme le terrorisme lui-même n'est pas défini, on n'a pas encore de solution pour mettre fin au terrorisme d'État.
Merci, M. Cornu. C'est vrai que les mots comme terrorisme, d'un point de vue de la narration, en fait, est très, très différent d'un pays à l'autre. En Europe, ça sera plus utilisé dans le commun des mortels, en fait, comme un acte violent, quelle que soit la justice qu'il y a derrière. Donc, par exemple, les Palestiniens, malheureusement, sont associés à des terroristes. Les Palestiniens qui essayent tout simplement de faire sortir leurs occupants. Il y a aussi un autre sujet qui n'a pas réussi à être abordé, alors que l'Europe, l'Occident le voulait. C'était la question ukrainienne. Les Indiens ne se sont pas laissés faire. On sait que les Indiens, depuis le début, ne sont pas d'accord avec la version européenne occidentale de la guerre entre l'Ukraine, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et finalement, à la fin du G20, l'Inde est restée sur sa position.
Oui, tout à fait. Enfin, la guerre en Ukraine est évoquée, même d'ailleurs assez tôt dans la déclaration, mais sans condamnation d'une partie ou de l'autre, donc sans évoquer, disons, les origines telles qu'elles peuvent être vues par la Russie et telles qu'elles sont vues par l'Ukraine et par les pays occidentaux, par l'OTAN. Donc les détails des raisons de cette guerre ne sont pas du tout évoqués.
Ça va plus loin, hein, parce que plusieurs pays à l'heure actuelle disent que non seulement le sujet réel du conflit ukrainien et russe n'est pas admis, mais ils confortent l'argumentaire russe en disant si les Européens et les Occidentaux arrêtaient de donner des armes à l'Ukraine, le conflit serait déjà arrêté, on serait déjà à la table de négociation. C'est vers ça plutôt que les pays internationaux vont en disant « Ok, si ce conflit ne nous regarde pas », il s'avère que la diplomatie est la seule solution. Ils reprochent aux Occidentaux en fait d'aller alimenter cette guerre.
Oui, c'est toujours dans les discussions de chaque pays ou dans les discussions orales, mais dans la déclaration, le soutien n'est pas vraiment évoqué. Le soutien des pays occidentaux à la guerre n'est pas vraiment évoqué. Donc on évoque surtout les conséquences dramatiques pour les populations civiles, qui sont d'ailleurs les actions militaires contre les populations civiles sont condamnées dans d'autres paragraphes de la déclaration, mais sur la guerre elle-même en Ukraine, les choses ne sont pas très précises. Pour
Merci.
éviter justement d'afficher les divergences entre les différents membres du G20.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, notre deuxième invitant étant Monsieur Luc Michel, analyste politique, notamment concernant l'Afrique. Bonjour, Monsieur Luc Michel. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Je suis aussi ravi. Bonjour et bonjour à Monsieur Cornu.
Alors, Monsieur Luc Michel, on parlait donc du G20. On peut expliquer que la situation n'était pas une seule même famille, comme le veut l'argumentaire du G20. La conclusion s'est faite avec un discours en demi-teinte. Il y a aussi un autre fond qu'on a pu sentir au G20. C'est l'Inde qui change de nom en plein G20, c'est-à-dire en plein début du G20. C'est annoncé, non pas avant, non pas après, mais en plein G20, où il a indiqué que l'Inde ne voudrait plus s'appeler l'Inde, mais pourrait s'appeler Bharat, qui en fait l'explication, l'argumentaire est indiquant que l'Inde étant un nom colonial. Alors c'est un message fort hein, pour les autres pays dominés, qui ont été dominés par la colonisation. Vous-même, Luc Michel, très intéressé et analyste politique concernant l'Afrique, qu'en pensez-vous?
Mais on est tout à fait devant la fin du monde néocolonial. La division du monde en division néocoloniale est terminée évidemment. L'Inde prend une position fortement symbolique.
Alors, Monsieur Cornu, pour revenir à ce que vous disiez, les propos que vous disiez concernant donc le dossier russe. Donc, non seulement l'Inde se montre comme étant inquisiteur concernant les Occidentaux face au dossier ukrainien, mais en plus l'Inde va plus loin en disant nous voulons complètement fermer le dossier colonial en changeant complètement de nom. Alors, ça montre bien qu'il explique que le monde doit faire avec les autres pays que les pays occidentaux. Qu'en pensez-vous de ce genre d'analyse?
Évidemment, l'Inde, colonisée par les Anglais il y a plus de 3 siècles, très dominée pendant très longtemps jusqu'à l'indépendance, après la Deuxième Guerre mondiale, après la longue lutte pacifique de Gandhi et d'autres pour obtenir l'évacuation des troupes britanniques, enfin de l'Empire britannique. C'est vrai que c'est la démarche est symbolique et face pour un pays qui a été la plus grande colonie du monde et qui a été la source de richesses considérables de l'Empire britannique et qui a fait que, d'ailleurs, l'Empire britannique a voulu récupérer des Français le canal de Suez pour protéger les routes commerciales de cet empire qui était sa source principale de richesses. Et même pour la Première Guerre mondiale, le motif protéger cette route maritime était très important comme une raison des Britanniques, de l'Empire britannique d'entrer en guerre aux côtés de la France et de la Russie. Donc cette décision symbolique de l'Inde de changer de nom, de reprendre un nom, disons, local, ancien, est une manière de dire que le colonialisme des empires européens et américains et sans doute aussi en partie de l'Empire russe, tsariste, est une des sources des déséquilibres actuels, de la pauvreté ou du retard de certains pays, et qui doit être compensée de la même façon que pour dans la dernière COP en Égypte, on a posé le principe de créer un fonds pour compenser les dégâts et les préjudices des actions climatiques, des conséquences, disons, des abus de consommation, d'énergie et d'autres, de pollution, des pays occidentaux depuis des centaines d'années.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, Monsieur Luc Michel, qu'est-ce que vous pensez donc de ce sommet du G20? Est-ce qu'un message ou est-ce qu'un dossier ou quelque chose d'intéressant pour finalement le monde entier a pu en sortir? Sachant quand même qu'on est en pleine inflation pour le monde entier, problème de nourriture, problème d'énergie, il y a quand même pas mal de dossiers extrêmement épineux. Est-ce que finalement le G20 est allé en avant?
Mais l'Occident a pris conscience du fait qu'il avait perdu la guerre en Ukraine. La Russie a gagné militairement. Elle a gagné surtout la guerre économique. Les Saoudiens et les Russes ont pris le contrôle du marché mondial des hydrocarbures que les Américains contrôlaient depuis 2015. Et les Russes maintenant contrôlent également le marché du blé. Ce que l'Occident a pris conscience, c'est qu'il n'allait pas la négocier. Et c'est donc cette position accommodante vis-à-vis de la Russie.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Bernard Cornu, on sait, donc je viens d'indiquer pour le sujet de l'énergie, on sait que l'hiver va commencer, la situation énergétique n'a toujours pas été modifiée, ne s'est toujours pas améliorée. Est-ce que finalement les pays comme l'Inde ou la Chine ou d'autres gros pays ont déjà leurs fournisseurs, ne sont pas finalement impactés par cette crise de l'énergie, contrairement au monde occidental, notamment ce qui s'est passé en Afrique avec le Niger qui décide de vendre son uranium plus cher. On ne sait pas encore pour la situation gabonaise, mais ça ne semble pas meilleur. Qu'est-ce que vous avez envie d'en parler quand on voit donc cet Occident face au G20 avec d'autres pays, avec cette invitation de l'Union africaine, mais finalement qui représente qu'une toute petite partie de l'Afrique?
Disons, évidemment, le sujet de la transition énergétique est abordé abondamment dans beaucoup de paragraphes de cette déclaration. On peut noter aussi que cette déclaration dénonce des mesures discriminatoires, des mesures d'empêchement du transit de l'énergie, du commerce de l'énergie. Donc ceci est finalement une position qui rejoint la position russe et qui est celle de l'Inde, de la Chine, de dénoncer les sanctions qui ont été mises à la Russie, mais sans que ce lien soit explicite. Donc le problème, effectivement, c'est ce vœu pieux de dénoncer les mesures discriminatoires, les interdictions ou les limitations au commerce de l'énergie, au transit de l'énergie. Le problème, c'est comment les faire adapter, comment résoudre la contradiction entre cette position de principe, cette déclaration de tous les pays, donc y compris les États-Unis ou l'Angleterre, ou même la France qui applique ces sanctions, et ce principe de liberté totale de la circulation du marché de l'énergie. Donc le problème n'est pas posé. Et donc il reste c'est une contradiction interne non explicitée entre la réalité stratégique, la réalité de cette guerre en Ukraine, de cette position de la Russie et des Occidentaux, de l'OTAN, et l'affirmation de la nécessité d'une liberté du commerce de l'énergie. Alors l'Inde a profité parce que il est bien connu que la Russie a pu vendre beaucoup de quantités de pétrole brut pour qu'il soit transformé en carburant par l'Inde, qui a des capacités de raffinerie importantes et qui a pu revendre les produits raffinés assez massivement aux pays qui en avaient besoin, donc à des tarifs sans doute inférieurs aux cours mondiaux tels qu'ils peuvent être définis normalement à Rotterdam pour les carburants.
Monsieur Luc Michel, vous qui suivez beaucoup, donc, à cause du sujet africain, les anciens pays coloniaux, est-ce que vous pensez que le front Chine-Russie et Inde s'est fait ressentir? On n'oublie pas, font partie des BRICS. Ils ont fait l'élan des BRICS. Est-ce que on a ressenti en fait cet élan de ces trois pays dans ce G20?
Oui, en même temps, on est face à une tentative de contre-offensive de l'Occident. Lorsque l'Occident fait adhérer l'Union africaine au G20, c'est un piège pour les Africains, puisqu'il s'agit de les lier à l'économie occidentale. C'est cela qu'il faut constater. C'est que les Européens et les Américains ne quitteront pas pacifiquement l'Afrique. On se prépare à une décennie de combat pour le contrôle de celle-ci.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Cornu, vous êtes d'accord avec les propos de Luc Michel? Vous êtes d'accord sur, quand je pose la question, est-ce qu'on a pu se ressentir un front entre la Chine, la Russie et l'Inde, tous trois faisant partie des BRICS, c'est même l'élan lancé. Est-ce que vous êtes d'accord au fait que ça s'est ressenti durant le G20?
Oui, je pense que quand on voit la déclaration précisément, on voit bien que, disons, les tenants de l'Occident, disons les États-Unis, l'Angleterre, la France et quelques autres pays, l'Italie, n'ont pas pu imposer ce qu'ils auraient voulu imposer. En revanche, on voit par exemple dans un exemple, quand il y a une condamnation de la force de la guerre, disons, pour conquérir des territoires, c'est le mot « État » qui est prononcé, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, l'État israélien pourrait argumenter que la condamnation ne parle pas de territoire palestinien, puisqu'ils vont dire qu'il n'y a pas encore d'État palestinien pour les Israéliens, et donc il ne peut pas être condamné. Donc il y a des problèmes très précis de vocabulaire. J'ai déjà cité ce problème de définition du terrorisme. Moi, j'ai des journaux turcs dans lesquels, en première page, il y a marqué Israël, État terroriste. Et donc, beaucoup de gens dans le monde le disent. Moi-même, je dis que les dirigeants américains, les dirigeants anglais du temps de Cameron et même certains dirigeants français, le sieur Sarkozy, doivent être condamnés pour terrorisme d'État, pour des violations flagrantes, des manipulations de l'opinion envers des États qui ont été détruits, fragilisés, agressés. Et ceci, c'est pour ça que dans la devise même de la conférence, qui est sympathique, c'est une seule planète, une seule famille, un même avenir. Il n'y a pas le mot justice. Bon, pour moi, l'essentiel est d'avoir la même justice pour l'ensemble de la planète. Et c'est ça qu'il faut faire, à mon avis, avoir une application du droit international qui soit universelle.
Oui, mais est-ce que, dans ce cas-là, vu que c'était l'un de l'autre, est-ce que ce n'est pas donc un message pour dire qu'il n'est pas envisageable pour l'instant d'imposer ou de mettre la justice, puisque les États entre eux ne sont même pas d'accord sur la manière de percevoir l'importance d'un peuple sur l'autre?
Les États ne sont évidemment pas d'accord, hein, mais disons les discussions progressent, ou surtout le rééquilibrage des pouvoirs, comme vient de dire mon collègue depuis la Belgique, est en train de se faire. Donc l'Occident n'a maintenant plus le monopole du pouvoir, le monopole de la vérité, le monopole de la communication. Bien des pays maintenant du sud global ont des moyens satellitaires de communication, commencent à avoir des agences de presse importantes, comme l'agence par exemple de presse Anadolu en Turquie. Je ne la félicite pas pour tout ce qu'elle fait, mais elle existe et elle permet de répondre aux manipulations de l'opinion telles qu'on les a vues dans les périodes préparatoires à la guerre de 2003 envers l'Irak ou d'autres guerres envers la Libye. Donc ce rééquilibrage des pouvoirs de communication, des pouvoirs financiers, des pouvoirs humains, des pouvoirs scientifiques, des capacités scientifiques est en cours. Et comme l'a dit mon collègue, il est clair maintenant que l'Occident a perdu son hégémonie principale.
Et qu'est-ce que vous pensez que veut en faire les autres peuples, c'est-à-dire ceux qui ont été toujours mis en bas de la société au niveau du monde, au niveau international, qui là, avec ce regain en fait de révolution qui est à l'heure actuelle, notamment sur le continent africain, mais également d'autres actes forts comme l'Inde qui essaie de reprendre son nom passé, est-ce que cet élan va perdurer dans le temps? Est-ce que dès que la crise avec l'Ukraine va s'estomper et que les taxes vont être payés, c'est-à-dire les impôts, les dettes que l'Europe doit du fait de cette guerre, mais également avant, est-ce que vous pensez que c'est une chose que les États vont pouvoir garder?
Ben, disons, ces actes symboliques de non, ils vont perdurer. Et je pense que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur cette adoption prochaine d'un nouveau nom pour l'Inde, mais il y a quelques décennies déjà, le président Sankara avait changé le nom pour appeler son pays Burkina Faso. Donc renoncer à des dominations anciennes de l'époque coloniale. Donc les Palestiniens disent notre capitale sera Al-Quds et ils évitent de dire Jérusalem. Quand ils parlent de la ville, ce qu'on appelle Hébron dans la presse occidentale, ils disent Al-Khalil. Donc tous ces gestes symboliques font progresser la conscience internationale. C'est déjà très lent, ça devrait aller plus vite. Et il faudra qu'il y ait des relais de communication beaucoup plus forts pour montrer aux gens, disons, de cette perception du monde, au lieu d'être dans leur téléphone portable et de regarder des choses sans importance, mineures, il faut que les gens s'intéressent à la situation du monde, à la résolution des conflits, et voient que seule l'émergence d'une justice internationale, d'une police internationale et la clé pour résoudre définitivement ou le plus rapidement possible, les conflits en cours.
Merci, Monsieur Cornu. Je remercie à nos deux invités. Donc, je rappelle Monsieur Bernard Cornu et Luc Michel pour leur intervention aujourd'hui à notre sujet du débat, qui concernait donc le sommet G20, dont l'hôte était l'Inde, donc Bharat. Je vous remercie, chers auditeurs, à vous de nous suivre. N'hésitez pas à voir ou à revoir notre programme ou nos programmes sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet du débat ici sur les plateaux de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. L'Iran a toujours essayé de représenter ses capacités dans le domaine aérospatial en lançant des satellites dans l'espace, au point qu'il est considéré comme étant l'un des 10 pays au monde dotés de capacités nationales d'accéder à l'espace pour faciliter la communication. Dans l'émission hebdomadaire « Histoire de la science en Iran », nous décidons d'aborder, quoique brièvement, de l'industrie aérospatiale en Iran, ainsi que les réalisations des ingénieurs spécialisés dans ce domaine. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin du programme. Le lancement de satellites dans l'espace en Iran a toujours connu des hauts et des bas. Il faut dire que l'histoire du lancement du premier satellite dans l'espace remonte à 1977. Après avoir passé différentes formations dans ce domaine, les experts iraniens ont décidé de mettre en œuvre ce projet. Cependant, il a été suspendu après la victoire de la révolution islamique jusqu'en 1986. Malgré les sanctions économiques imposées par l'Occident après la victoire de la révolution, l'Iran a réussi à réserver, pendant ces années, 3 orbites pour ses 3 satellites. Selon le 4e plan de développement du pays, l'Iran doit lancer chaque année un satellite dans l'espace qui possède actuellement 3 points orbitaux internationaux de 26, 34 et 47 degrés est enregistrés au nom de l'Iran auprès de l'Union internationale des télécommunications, UIT. Les 3 satellites Zohré, Sina et Mespa devaient être mis en orbite au cours des 2 premières années du 4e programme de développement du pays, mais chacun de ces satellites a eu un sort particulier et leur processus de lancement a été arrêté à certains moments. La question du lancement du satellite Zohré remonte à 1987 et le projet a été suspendu après la révolution. Mais la question de son lancement a été à nouveau évoquée dans les années 70. Le satellite Zohré était considéré comme un satellite de télécommunication qui était censé être lancé en coopération avec la Russie. Le lancement de ce satellite dans l'espace permettait au gouvernement de fournir de nombreux services dans les domaines du téléphone, du fax, de communication des données, de la radiodiffusion et de la télévision dans toute la région de l'Iran. Ainsi, l'Iran n'avait plus besoin de louer le transpondeur pour assurer les communications locales. Cependant, ce satellite n'a jamais été lancé dans l'espace. Sina est l'un des satellites lancés par l'Iran. Ce satellite a été placé en orbite spatiale en 2005. Avec le lancement de Sina dans l'espace, l'Iran est devenu le 43e pays au monde à posséder un satellite. Le satellite Sina est considéré comme le premier satellite iranien construit avec l'aide des sociétés russes et la participation d'experts de l'Organisation des industries de défense, du ministère de la Science, de la Recherche et de la Technologie, ainsi que de l'Institut d'ingénierie cartographique. Sina était un satellite d'études et de recherche utilisé pour étudier les ressources souterraines et les conséquences de fléaux naturels inattendus. MESPA était également l'un des satellites iraniens à lancer dans l'espace. Bien entendu, le lancement de ce satellite est passé par divers processus. Ce satellite était censé être installé sur un autre satellite et lancé avec une fusée russe depuis la base spatiale de Plesetsk, près de Moscou, pour être placé sur une orbite située à 1000 km au-dessus de la surface de la Terre. En 1997, un accord a été signé entre le ministère des Sciences et le ministère des Communications et des Technologies de l'Information pour la construction du satellite MESPA, après quoi la construction d'un échantillon de laboratoire a commencé. Et dans le cadre d'une action commune visant à créer une technologie satellitaire, un parterre d'experts spécialisés dans ce domaine dans le pays, le projet de satellite MESPA a été mis en œuvre. Selon l'accord conclu entre les deux ministères, le Centre iranien de recherche sur les télécommunications et l'Organisation iranienne de recherche scientifique industrielle sont devenus responsables de la conception, de la construction et du lancement conjoint du satellite MESPA aux orbites à basse altitude ou LEO, étant très utilisé pour l'observation de la Terre. Ce projet cherchait à atteindre les objectifs ci-dessus. En 2001, la phase de réalisation de l'échantillon de laboratoire du satellite était terminée. Dans le même temps, les mesures nécessaires à la réalisation des prochaines étapes, notamment la construction du prototype technique et de son prototype spatial, ont été lancées. Bien que ce satellite ait coûté au gouvernement plus de 2 millions de dollars et qu'on y a consacré un montant très élevé par rapport à d'autres projets de recherche, l'Iran pourrait rejoindre, grâce à ce projet, le groupe des 15 pays dans le monde qui possèdent les connaissances techniques nécessaires pour construire et concevoir des satellites. Et c'est une percée remarquable pour le pays. En 2005, lors de la première réunion du Conseil suprême de l'espace, le chef du 8e gouvernement du pays, soulignant l'importance du développement et de la croissance des ressources humaines dans le secteur aérospatial, concernant la présence active de l'Iran dans la technologie spatiale comme une étape importante vers le développement durable et l'économie nationale. Enfin, le premier satellite iranien MESPA, construit avec l'aide de l'Italie, est arrivé en Iran en 2005 et pendant les premiers jours du 9e gouvernement de la République islamique d'Iran, et peu de temps après, il a été dévoilé en présence du ministre des Communications et de l'Information et le ministre de la Science, de la Recherche et de la Technologie au Centre de Recherche sur les Télécommunications d'Iran. Cependant, le satellite de MESPA n'a pas été encore lancé dans l'espace. En mai 2023, le chef de l'Organisation iranienne de recherche scientifique industrielle a déclaré « Des négociations concernant le lancement du satellite de communication MESPA sont en cours. » À cet égard, il a ajouté « Le satellite MESPA a été construit dans le but d'effectuer des travaux de télécommunication et attendait qu'un terrain propice soit préparé pour son lancement dans l'espace. » Selon Hassan Zamanian, chef de l'Organisation iranienne de recherche scientifique et industrielle, les fusées iraniennes, les lanceurs de satellites iraniens, sont capables de placer en orbite des satellites jusqu'à une altitude de 500 km. Mais le satellite de MESPA doit être placé en orbite à une altitude de 750 km. Le satellite Omid a été lancé dans l'espace en 2008 et ce projet a été réalisé par la fusée Omid. Ce satellite tourne autour de la Terre 15 fois toutes les 24 heures et envoie des rapports aux stations terriennes en Iran. La NASA a également confirmé que le lancement du satellite Omid a été réalisé avec succès. Le satellite Omid est un satellite léger a été mis en orbite par le lanceur Saphir 2. Ce satellite a été placé sur l'orbite terrestre dans le but d'établir une communication mutuelle entre le satellite et la station au sol, de déterminer les caractéristiques des orbites, etc. Le deuxième satellite iranien, baptisé Rasad, a été mis en orbite en 2011. Ce satellite fournissait son électricité à partir de panneaux solaires fixés sur la paroi du satellite et de ses batteries. À la suite du succès du satellite Omid, l'agence spatiale iranienne alloue une enveloppe de 10 millions de dollars à trois universités, dont l'Université de technologie Malek Ajdar. Celle-ci développe Rasad en association avec le ministère de la Défense et celui des télécommunications et des technologies de l'information. C'est le premier satellite de ce pays équipé d'une caméra. L'objectif de sa mission est de mettre au point les différentes technologies d'imagerie satellitaire. Chers auditeurs, dans le prochain épisode de l'émission Histoire de la science en Iran, nous examinerons d'autres succès de l'Iran dans le domaine de la construction et du lancement de satellites dans l'espace. À la semaine prochaine.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.